L'accent des autres, présenté par le Belge Olivier Nederland de la RTBF.
Bienvenue, voici donc l'accent des autres, comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité francophone, et c'est avec France Inter, la radio-télévision suisse, Radio-Canada, la RTBF et RFI. Et aujourd'hui, nous allons d'abord parler de pertes d'emplois annoncées en Belgique, Jacques Kremers, avec ce coup de tonnerre dans le secteur pharmaceutique, une importante restructuration annoncée chez GlaxoSmithKline.
En effet, GSK, c'est le premier employeur privé dans la partie sud et francophone du pays. 720 emplois vont être supprimés, sans compter de nombreux contrats temporaires.
Sur le plan économique encore, le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, conclu en 2016, continue de soulever la controverse, Benoît Audet.
Oui, et cette fois-ci, l'ambassadrice du Canada à Paris va même jusqu'à utiliser le terme « Canada bashing » pour dénoncer l'attitude des parlementaires français.
En France, précisément, on va revenir sur les accusations de viol dans le monde du patinage artistique avec, en prime, une polémique entre le gouvernement et le président de la Fédération française de patinage, Éric Delvaux.
Oui, la ministre des Sports réclame la démission du président de la Fédération française des sports de glisse, mais lui, il rétorque qu'il n'a rien à se reprocher. Il accuse au passage la ministre d'être moralisatrice. Ça vous donne un peu un aperçu de la mauvaise ambiance.
Sur le continent africain à présent, nous irons au Burkina Faso, à Mélitulé, aux côtés des déplacés du nord et du centre du pays.
Oui, la répétition des attaques meurtrières par des groupes terroristes pousse des villages entiers à partir. Le Burkina enregistre déjà plus de 600 000 déplacés.
Enfin, payer pour récolter des signatures en vue d'un référendum, c'est une pratique que la gauche veut interdire en Suisse, Pierre Anchoffat.
Argument fallacieux, voire mensonge, pour obtenir un paraf, ces professionnels de la récolte sont sur la sellette.
En Belgique, donc, tout d'abord, 720 emplois devraient donc être supprimés dans le secteur pharmaceutique, sans parler des contrats temporaires qui ne seront pas renouvelés. Un conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu cette semaine chez le groupe britannique GSK GlaxoSmithKline. Jacques, c'est un coup d'arrêt brutal, on peut le dire, dans un secteur pourtant en croissance constante.
Oui, l'entreprise pharmaceutique est le plus gros employeur privé en Wallonie avec 9000 emplois. Chaque jour, elle fabrique 2 millions de dose de vaccins. Elle fait partie d'une multinationale qui, à l'échelle mondiale, a réalisé un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros en 2018, des profits que les syndicats n'ont pas manqué de souligner.
C'est vrai que quand vous voyez des chiffres comme ça, c'est mirobolant et on voit bien qu'à un moment donné, nos actionnaires et nos dirigeants, qui ont quand même un côté financier, vont trancher un petit peu pour avoir de plus en plus, quoi.
Oui, c'est vrai que GSK fait d'importants bénéfices. En attendant, Jacques, la restructuration va maintenant faire l'objet de longues négociations.
720 emplois, cela représente 8% du personnel. Ce sont surtout des cadres qui sont touchés. En outre, 215 contrats temporaires ne seront pas renouvelés. GSK qui justifie ses licenciements pour deux raisons. La nécessité d'innover, d'augmenter ses investissements en recherche et développement et aussi l'automatisation des unités de production. Alors cette restructuration annonce-t-elle pour autant la fin de l'âge d'or du secteur pharmaceutique en Wallonie? Pas vraiment, selon les représentants du secteur qui, logiquement, mettent en avant la qualité des produits en développement.
Et on va rester dans la sphère économique avec le CETA. On reparle de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Il est entré en vigueur partiellement, en tout cas en septembre 2017. Le CETA vise à faciliter les échanges commerciaux et à éliminer les barrières douanières entre le Canada donc et l'Union européenne. Et il soulève encore aujourd'hui de sérieux débats. L'accord est appliqué dans les faits, mais seule la moitié des pays de l'Union l'a ratifié. Et en France notamment, Benoît, le débat a toujours lieu au Parlement.
Oui, ce sont maintenant les sénateurs qui sont appelés à se prononcer. L'été dernier, l'Assemblée nationale avait approuvé l'accord de libre-échange par 266 voix. 213 députés s'étaient prononcés contre et 74 s'étaient abstenus, dont 52 députés du parti du président Emmanuel Macron.
Et donc le CETA divise encore beaucoup les parlementaires français et c'est ce qui a provoqué une sortie remarquée tout récemment d'Isabelle Hudon. Benoît, c'est l'ambassadrice canadienne à Paris.
Oui, elle dit qu'elle a entendu des propos choquants en France au cours du débat sur l'accord de libre-échange. On écoute Isabelle Hudon.
J'ai à cœur que mon pays vous apparaisse tel qu'il est. Je ne veux pas en laisser dresser un portrait faussé au service de certaines postures politiques. Je ne veux plus voir mon pays abîmé, injustement taxé des pires maux sanitaires et environnement.
Isabelle Hudon a déclaré que l'accord était à l'avantage des Français. Elle a donné l'exemple des producteurs de vin qui ont vu leur exportation augmenter de 11 % depuis 2017.
Et cet accord de libre-échange entre la France et le Canada a donc été adopté, on le disait, par le Parlement français, mais toujours pas ratifié. Et s'il suscite la colère des agriculteurs canadiens, il suscite aussi, Eric, la colère des agriculteurs français et de l'opposition.
Oui, cela veut dire que cet accord n'est appliqué en France que de façon provisoire, mais un provisoire qui dure, à tel point que l'opposition reproche au gouvernement de vouloir jouer la carte de l'application provisoire indéfinie. Il faut aussi donner le sort des agriculteurs français qui s'en prennent régulièrement aux locaux des permanences des députés qui ont voté pour cet accord.
L'accent des autres.
Les suites à présent dans l'accent des autres en France de ces accusations de viol dans le monde du patinage. Un entraîneur est mis en cause par plusieurs patineuses. Le scandale, Eric, a viré à la polémique entre la fédération sportive et le gouvernement.
Oui, le scandale a commencé avec le témoignage de deux ex-patineuses, dont l'ancienne championne Sarah Abitbol, quand elle avait entre 15 et 17 ans. L'entraîneur en question fut certes écarté en 2001, une enquête administrative ayant déclaré qu'il ne devait plus avoir aucune fonction d'encadrement de jeunes. Mais dans les faits, l'homme a continué à avoir des responsabilités au sein de la Fédération française des sports de glisse. La ministre des Sports a convoqué l'actuel président de la Fédération, Didier Gayaguet, pour lui demander d'assumer ses responsabilités et donc de démissionner. Mais vous allez l'entendre, pas question, dit-il, de quitter cette institution qu'il préside depuis une vingtaine d'années.
Je n'avais jamais entendu parler de viol sur les personnes d'Hélène Godard ou de Sarah Abitbol. Une fédération sportive, ce n'est pas la police, ce n'est pas la justice, ce n'est encore moins le ministère des Sports. Madame la ministre ne m'a pas entendu. Drapé dans des certitudes d'une ministre moralisatrice.
Voilà, le mot est dit, une ministre moralisatrice, alors que l'on parle de viol sur jeunes filles mineures. Voilà des propos indignes à commenter le gouvernement qui apporte son soutien à sa ministre des Sports dans son combat contre les violences faites aux femmes.
Oui, et ces paroles libérées dans le sport français, Eric, ça ne concerne pas que le monde du patinage.
Oui, d'autres femmes témoignent depuis plusieurs jours pour dénoncer des viols et des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient jeunes sportives, dans la natation par exemple ou l'équitation. Et une cinquantaine de sportifs de haut niveau réclament désormais la création d'une cellule d'écoute des jeunes victimes, une cellule qui serait indépendante des fédérations sportives.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
C'est une crise humanitaire qui s'aggrave à la vitesse grand V au Burkina Faso. À présent, en Afrique de l'Ouest, Amélie, les déplacés sont de plus en plus nombreux.
Oui, et cette semaine, selon les dernières estimations, ils sont déjà plus de 600 000. Et si la situation ne s'arrange pas, ils seront bientôt 1 million, selon les projections d'une ONG. Dans le nord et le centre-nord du Burkina, les attaques sont devenues quasiment quotidiennes. L'armée n'arrive pas à faire face. Les déplacés se réfugient dans les villes comme Kaya. Certains descendent jusqu'aux abords de la capitale Ouagadougou. C'est là que notre envoyé spécial, Pierre Pinto, a rencontré cet habitant du village de Silgadji.
Premièrement, ils ont venu capturer les prêtres qui venaient faire l'évangile dans notre village. On n'a pas les trouvé. En avril, ils ont tué notre pasteur avec 6 personnes. Après cette attaque-là, au moment de la fête du Ramadan, ils ont tué l'imam avec 13 personnes. Donc, c'est la veille que nous, on s'est dit que si ça continue comme ça, il faut que nous, on se déplace.
Cette semaine, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'Italien Filippo Grandi, est venu en personne au Burkina Faso évaluer la situation. Écoutez-le au micro de Yaya Boudani.
Pratiquement devant nos yeux, les gens affluaient à Kaya. Le manque d'eau est dramatique partout, il n'y a pas de latrine. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les récits des gens déplacés. Histoire de hommes, garçons, parfois même enfants tués par ces groupes armés. Histoire de femmes violées, beaucoup de femmes violées.
Selon Filippo Grandi, il faut maintenant rapidement mobiliser 300 millions de dollars pour aider les déplacés et les familles qui parfois les accueillent. Il faut aussi scolariser les enfants et alléger la pression économique que font peser ces arrivants sur un marché de l'emploi où le travail manque déjà.
On va refermer à présent l'accent des autres avec cette question en Suisse. Pierre-Han, la démocratie connaît-elle des ratés ? Le recours à ce qu'on pourrait appeler des mercenaires pour récolter des signatures passe en tout cas très mal. Expliquez-nous.
Eh ben, vous le savez bien, Olivier, avant de pouvoir voter, les Suisses doivent signer. Pour provoquer un référendum contre une loi, il faut arpenter les trottoirs pour obtenir les précieux paraphes des citoyens. Et la tâche est ardue à tel point que certains partis sont prêts à payer chacune de ces signatures.
Alors concrètement, Pierre-Han, c'est donc ça qui fait polémique ?
Bien oui, parce qu'il y a eu des dérapages, notamment avec le référendum contre le congé paternité qui vient d'être déposé. Mal formé ou animé par l'appât du gain, certains de ces récolteurs payés 1 franc suisse, le paraf, ont caché le vrai but du référendum, y compris à des élus favorables à ce congé, d'où la polémique. Pour l'écologiste vaudoise Rebecca Joly, il faut interdire cette pratique.
On a vu que ça pouvait mener à des dérives. Dans un premier temps, il y a eu beaucoup de simplifications, de récoltes avec des arguments qui étaient plus ou moins fallacieux. Mais là, on est clairement dans le mensonge et il faut qu'on arrête ces pratiques.
Mis en cause, le patron de la société Incop se défend tant bien que mal. Son association viendrait simplement en aide aux acteurs qui n'ont pas assez de moyens. Franck Tessemo jure qu'il ne veut pas s'enrichir sur le dos de la démocratie.
On n'est pas une entreprise, on est une association. Notre prix, quand on le fixe, c'est par rapport à nos charges, pour qu'on puisse répondre à la demande de nos frais, c'est-à-dire de pouvoir...
Vous ne gagnez pas d'argent avec la récolte de signatures?
Bien sûr, je gagne d'argent. Je dois payer mes factures, je dois payer mon loyer. Sinon, je vis comment?
Et voilà, pour éviter d'être pris dans des polémiques à répétition, les partis n'ont d'autre choix que de motiver leurs propres militants à battre le pavé.
Voilà donc pour cette polémique en Suisse autour des signatures. Merci à la Radio-Télévision Suisse, merci à RFI, à France Inter, à Radio-Canada et à la RTBF. L'essentiel de l'actualité francophone de la semaine, c'est l'accent des autres. Nous revenons bien évidemment, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.